RMC. Wemby three to shoot. Wembanyama fading and hitting. How do you stop it? Wembanyama! Oh my!
Basket time.
Reynaud with the steal. Reynaud on the fast break. Oui, oui.
La semaine des Français.
One, two. Koulibaly! Are you kidding? Wow!
Alex Biggerstaff.
C'est méchant!
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Basket Time, la semaine des Français en plein playoff. On continue de parler parce que y a beaucoup de Français qui brillent. Et ça, c'est très bien, il faut le dire, il faut le rappeler, bien sûr. Dans Basket Time, la semaine des Français, on va parler aujourd'hui des playoffs de Victor Wembanyama. On va parler du duel à venir en demi-finale de conférence entre deux intérieurs français, Rudy Gobert et Victor Wembanyama. Et aussi, on va saluer encore un trophée NBA dans les mains d'un Français. Eh oui, il n'y a pas que Victor qui gagne des trophées.
Il y a 50 000 trophées aussi. Hein. Ouais, c'est bien.
C'est un indice. Autre indice,
ah oui, le rabat-joie,
il est dans l'émission. Arnaud Valado.
Salut Arnaud. À tous. Non, mais c'est vrai, t'as un trophée pour celui qui coupe les citrons. Enfin, tu vois, c'est celui qui est sympa avec la presse.
Il doit être beau, celui avec les citrons. Je l'imagine.
Lemon, un beau citron, tu sais, sur une planche de bois. Non, mais c'est vrai, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de trophées.
Ouais, celui de Moussa, il vaut vraiment le coup. On en parlera tout à l'heure. C'est vraiment un beau trophée.
Le trophée du meilleur Scholté à la radio. Ouais, sans doute pour celui-ci. Monsieur Félix Gabory.
Salut tout le monde. La forme?
Ouais, très bien. Ouais.
Ce qui est bien avec les Français, c'est qu'on est tellement fort que même pendant les playoffs,
je crois qu'il y a dire, ce qui est bien avec les Scholtés, c'est qu'on est tellement fort.
Mais bientôt, l'année prochaine, on fera la semaine des Scholtés.
Basket Time, la semaine des Français en playoffs, il y a quelques années de ça.
Ah,
on a du mal. Hein.
Ah oui, on aurait fait 5 minutes.
Le contingent était plus réduit.
On aurait fait 5 minutes, on aurait juste fait des blagues. On aurait entendu Arnaud faire un petit peu le rabat-joie sur les trophées, c'est tout. Quoi.
Allez, on va beaucoup parler de Wemby. C'est parti pour Basket Time, la semaine des Français. Et on commence d'abord avec le bilan du premier tour de Wemby face aux Blazers, parce que c'était quand même sa toute première campagne de play-off. Et puis surtout, le storytelling a été exceptionnel entre les débuts parfaits, match à 35 points dans le match 1, le protocole commotion, le retour sur le match 4 et une seconde période absolument dingue pour finir la qualif. Donc 4 victoires à 1 de San Antonio, présent en demi-finale de conférence. Le Français et ses coéquipiers, qui découvraient quasiment tous les playoffs, ont su tenir leur rang et font toujours office de candidats très crédibles pour accrocher une finale de conférence à l'Ouest. Juste les petits chiffres quand même de Victor sur cette série face à Portland. 21 points de moyenne à 58% de réussite, 53% à 3 points, 8,8 rebonds, 4 contres de moyenne et seulement en 28 minutes sur les 4 matchs qu'il a joué. Tout simplement exceptionnel. Félix, comment Victor Wembanyama a-t-il encore réussi à te surprendre davantage en play-off?
Déjà, les 21 points en plus de moyenne sont un peu biaisés parce que ça compte le match 2.
À 11 minutes, ouais.
Où il sort au bout de 10 ou 12 minutes. Donc voilà, c'est en termes de stats, faut pas trop non plus regarder ça. Mais non, c'était une série rondement menée par Wemby. Alors oui, tu l'as dit, on a été très inquiets au match 2. On a commencé à se dire, après la saison de rêve des Spurs en régulière, on a commencé à se dire, attends, là, tout peut partir un peu en cauchemar sur cette série de play-off. Ça passe pas loin de un peu mal tourner au troisième match quand il y a plus 15 pour Portland quand il y a un partout, il y a plus 15 dans le troisième quart-temps. Là, on se dit, si Portland prend ce match, tourne à 2-1, et sachant qu'on avait l'incertitude de Wemby, on pouvait se dire ça peut être un peu relou, un peu dos au mur pour les Spurs. Mais au final, il y a le game de Dylan Harper qui a ramené tout ça. Non, mais pour les Spurs, vraiment mené. Pour Wemby, ce qui a été intéressant de le voir, c'est qu'il a répondu à l'intensité physique qui avait été imposée par Portland. Thiago Splitter, le coach de Portland, l'a bien répété tout au long de la série. Un de leurs plans, leur première stratégie, c'était de jouer dur, de rentrer dans l'art de ces Spurs, parce qu'en termes de talent, c'était un peu en dessous. Donc, ils voulaient un petit peu leur rentrer dans la bouche. Et Wemby, bon, il a été projeté au sol à plusieurs reprises, il y a cette commotion, mais moi j'ai été un petit peu rassuré de voir que dans l'intensité ça répondait présent. Et après voilà, le boulot a été fait pour Wemby, qui a pas eu non plus trop besoin de forcer, juste quelques petits coups d'accélérateur de temps en temps pour remettre les Spurs.
C'est ça qui est intéressant, parce que tu parles du match 3, il y a aussi le match 4 où ils sont à moins 15 à la mi-temps à peu près, et quand ils mettent le bleu de chauve, quand ils accélèrent, et ils ont cette faculté à pouvoir, quand ils le décident, à accélérer, alors on va dire dans une série
de playoffs. Mené de 19 points.
Ouais, 19 points, voilà. Tu vois, même. J'étais là devant ma télé, je fais, ah, bon. Alors, j'étais plutôt certain qu'ils allaient pouvoir revenir. Et quand tu vois le début de troisième quart-temps qu'ils font, ils recollent tout de suite dans ce match 4. Et Victor, qui ne fait pas forcément une très bonne première mi-temps d'ailleurs sur ce match 4, il écrase tout le monde et les Spurs globalement.
Les gens se disent même, oh là, il est encore dans le protocole commotion. En fait, parce qu'il se situe mal sur le terrain, il envoie des briques. Ouais,
la deuxième période, elle est énorme. Hein, c'est le rouleau compresseur. Ils sont arrivés là, les Spurs. C'est l'altabilité.
Et donc de les voir,
trois niveaux d'écart entre les équipes.
On les a vus à la fois dans l'action, à la fois dans la réaction. Donc évidemment, t'as toujours plus envie en play-off d'être dans l'action. Et il y a un truc qui est incroyable sur les stats, les deux derniers matchs, il a 13 comptes cumulés, 7 et 6.
Il gagne des deux côtés du terrain. C'est l'enseignement sur cette série-là.
Sans le Shaq l'a dit, c'est quoi le meilleur? C'est comment sa phrase? C'est le meilleur pivot. Enfin, on a fabriqué le meilleur pivot possible.
Premier
quoi.
Pivot parfait jamais voilà. Créé. Voilà, adoubé par Shaquille O'Neal qui fut un temps préféré Bol-Bol.
C'est vrai, on n'oublie
jamais,
pas ça.
J'ai jamais oublié, oui. Qu'il semble adoubé.
J'aurais adoré voir Shaq Orlando face à ce Wemby-là. Franchement, c'est pas mal. Incroyable.
Il y a les chiffres, mais il y a aussi, je pense qu'on peut revenir sur l'attitude de Victor, parce que d'ailleurs, sur ce match 4, on voit juste, il y a un plan qui est fait par la télévision américaine sur son visage. Quand il rentre au vestiaire à la mi-temps, c'est l'un des premiers à retourner au vestiaire. Il fait une moue, Victor, et il fait un petit signe des yeux en l'air, et comme par magie, les mecs sortent du vestiaire et il est le premier à insuffler vraiment cette attitude défensive qui prend à la gorge les Blazers.
De toute façon, on sait qu'il a sans lui, Victor, ce côté leader, ce côté la haine de la défaite. Certains pouvaient se poser un peu la question avant ces premiers playoffs de Victor Wembanyama, est-ce qu'il allait être prêt, parce qu'on sait que c'est un monde différent, les playoffs. Mais pour ceux qui suivent la carrière de Victor Wembanyama depuis le début, il a l'habitude de ces matchs-là. Faut pas oublier que quand il était, alors c'est un niveau complètement différent.
Non, mais t'as raison. Le Valois Monaco, enfin voilà, le Boulogne Levallois en finale de.
En Betclic Elite, il emmène son équipe
à Roland Garros
en finale de Betclic Elite à Roland Garros. Il a quand même disputé Victor Wembanyama à un peu plus de 20 ans la finale des JO.
Est-ce que sa personnalité,
meilleur marqueur du match et sa personnalité, voilà,
très tranquille, en fait, nous a un peu fait sous-estimer son côté haine de la défaite.
Ouais, mais
il a toujours dit qu'il voulait gagner,
ouais,
en fait.
Ça, ouais.
Il a toujours dit, mais c'est vrai que après, quand tu le vois sur le terrain, tu comprends clairement qu'il déteste perdre.
Oui, mais ce qui est fort avec ces Spurs, c'est tout le monde est au diapason. Tu sens, ils ont un truc ensemble, ils ont un feu sacré tous ensemble. Les Cassel, les Harper, les Vassell, les Fox aussi, tout le monde. Champagny qui démarre aussi. Enfin, tout ce petit monde-là, ils sont tous au diapason. C'est pour ça que je t'annonce, je pense un sweep, hein.
Walls, attends, hein. Attends, alors, on ira là, tu sautes déjà à la conversation numéro 2.
C'est intéressant ce que tu dis, que sur Victor, sur le côté de tout le monde au diapason, ce qui est impressionnant avec Victor, c'est son leadership et la capacité à fédérer autour de lui. Et c'est ce qui marque un peu dans ces Spurs-là, ce qui était visible déjà sur toute la régulière, sa capacité à mettre tout le monde derrière lui et tout le monde tire dans le même sens. Et c'est assez fou de savoir qu'il a 22 ans et qu'il arrive à être autant un patron, un leader. C'est vraiment le leadership parfait. Et quand on parle des franchise players et des bons ou des mauvais leaders dans les franchises,
ils n'ont pas tous ça. Hein.
On a tendance des fois un peu à oublier ça, cette capacité à fédérer autour de toi. Et tu le sens déjà rien que sur le terrain ou dans les attitudes, pendant les temps morts ou même dans tous les discours en conférence de presse après les matchs. Ils ont tous envie de se battre derrière Wemby et ils ont tous envie d'aller à la guerre.
Et tu vois, à l'époque Duncan, j'ai pas le sentiment. Alors, j'ai pas vu tous les matchs de Tim Duncan, notamment lors des premiers titres, mais il était un leader. Leader évidemment technique, peut-être le poste 4 le plus fort de l'histoire, le meilleur de l'histoire. Mais tu sentais aussi les joueurs au-dessus, mais une alchimie un peu différente, tu vois. Et puis il y avait Tipeee, après il y a eu Ginobili.
Il y avait des différences de génération quand c'est l'équipe de Duncan aussi. Il y avait déjà des vétérans.
T'avais David Robinson.
Voilà.
Ah, le gros patron, c'était Popovic aussi. C'était différent. Ouais.
Là, on a très peu de vétérans autour d'un groupe de joueurs quand même très jeunes qui découvrent, on le disait.
Mais qui sont matures, qui ont des années d'avant.
Il y a quelque chose sur lequel je voudrais votre avis quand même. C'est cette déclat de Victor Wembanyama qui est revenu sur le protocole commotion quand même. Et en plein play-off, il déclare « Les Spurs ont fait un super boulot, mais je ne suis pas content de la façon dont le protocole a été géré par d'autres parties prenantes, sans citer. Je suis très déçu. » En fait, ce qu'on sait, c'est qu'après le match 2, avant le match 3, il a eu le feu vert en fait, des médecins de San Antonio, mais celui de la NBA a dit non et on a demandé à pousser encore un petit peu plus le curseur plus loin. Et ça, visiblement, dans ce qu'on comprend dans les propos de Victor, ça l'a beaucoup agacé et il a pas hésité du tout à le dire, en fait.
Alors ça, déjà, Victor n'hésite jamais à dire quand il a quelque chose sur le cœur et quand il a envie de faire passer des messages, il le fait, il l'a toujours fait. Dernier exemple en date, c'était sur la course de MVP. Il sait très bien quand faut prendre la parole, quand faut faire passer des messages. Et par rapport à cette sortie-là, moi, de ce que j'ai lu un peu dans les médias américains, ce qu'il n'a pas aimé, c'est de pas avoir de
la non-réponse.
C'est pas avoir de raison sur le refus de la NBA. Lui, ce qu'il faisait comprendre, c'est je veux bien qu'on me dise tu peux pas y aller, mais il a voulu savoir pourquoi. Et apparemment, c'est resté lettre morte. Et la NBA lui a pas expliqué pourquoi ils avaient refusé de le faire jouer. Mais
il voulait quoi? Il voulait relancer un petit peu l'intérêt de la série. Ça peut aller jusque là.
Il voulait virer le médecin de la NBA.
Non, mais après, il y a deux trucs.
Moi, je trouve que c'est le principe de précaution qui prévaut. Alors,
évidemment, quand t'es un joueur, t'as envie de jouer tout le temps.
La moyenne, c'est une semaine d'absence. Ouais. Il est revenu bien avant.
Parce que le choc, il est quand même très violent. Hein. C'est la tête comme ça. Alors, c'est marrant parce que c'est symptomatique, je trouve. Il veut absolument faire la passe, quitte à se sacrifier, parce qu'il se sacrifie juste pour faire la passe en bout de course. Mais quand tu vois le choc, je me dis. Doucement, quoi, vraiment. Alors,
faut qu'il fasse attention là-dessus parce que Jrue Holiday lui a fait le coup de la chaise plusieurs fois. Et le spin move comme ça de Victor, on a bien reconnu cette saison que c'est une de ses spéciales. D'autres défenseurs pourraient être inspirés de continuer.
Ils vont continuer. Tu vas essayer après.
Il faut qu'il s'adapte. Parce
c'est
que
pas
ça,
tout le temps
ça
qu'il
peut
va
être,
faire
ça
cette,
peut être dangereux aussi.
cette chute comme ça. Alors, c'est vrai, moi, si les Spurs ils ont quand même un staff médical pléthorique, des installations de très haut niveau. Donc, ils ont sûrement vu que c'était bon, mais c'est très compliqué, les commotions. On en parle seulement un petit peu maintenant. Et encore, on parle souvent des commotions a posteriori. Tu prends les joueurs d'NFL, etc., les joueurs de hockey ou les joueurs de rugby aujourd'hui en France. Mais sur le moment, bah voilà, tu n'as pas les protège-dents connectés et tout. Moi, j'avais envie de dire, vaut mieux de la prudence, vaut mieux que tu rates un match. Mais après, je peux entendre le fait que Victor dise, j'aimerais que la NBA, vous m'apportez une vraie réponse. Regardez le tanking, vous avez apporté une vraie réponse. Moi, pour ma commotion, apportez-moi une vraie réponse.
Félix, il y a un joueur, et encore
réponds
plus,
Adam.
Quand il s'appelle Victor Wembanyama, il a toujours envie de jouer. Il l'a fait plein de fois dans sa carrière, même cette saison, quand il y a eu les histoires où il était un petit peu managé pour sa blessure au mollet. On le savait, il voulait rejouer. C'est à chaque fois le staff des Spurs qui doit un peu le freiner. Lui, il veut jouer, il veut être sur le terrain. Après, c'est justement le but de médecin, que ce soit ceux des Spurs ou de la NBA, des fois de mettre le holà, de préserver la santé des joueurs. Et là, on est bien content de savoir qu'il est resté au frais pendant un match, qu'il a pu revenir derrière, qu'il n'y a pas eu d'incidence sur la série des Spurs et que là, il est complètement reparti. Il n'y a plus aucun risque et voilà, on est content de ça.
En tout cas, on a bien vu que les Spurs, premier playoff ou pas, ça se voit pas.
Mais il y a quand même ce truc de réaction sur lequel appuyait Arnaud tout à l'heure, qui va pas falloir faire ça contre Minnesota
Minnesota, ça va passer. On prend deux doigts à faire jouer le boulanger et l'intendant. Donc,
C'est bien. Je vois que vous êtes déjà chaud pour en parler, donc on va le faire. San Antonio qualifié donc pour les demi-finales de conférence pour la première fois depuis 2017. Les Spurs, d'ailleurs, à l'époque, avaient terminé déjà deuxième de la conférence Ouest pour le petit clin d'œil. À l'époque, ils avaient battu Memphis puis Houston en demi avant de tomber en finale contre Golden State. On va donc parler de ces demi-finales de conférence cette année. Wemby contre Gobert, les dessous du duel des demi. Et oui, premier rendez-vous, ça sera dans la nuit de dimanche à lundi pour le Game 1 à San Antonio. Et alors là, à l'intérieur, c'est 100% français, Victor Wembanyama face à Rudy Gobert, puisque Minnesota a éliminé les Denver Nuggets. Un duel franco-français très excitant entre le nouveau défenseur de l'année et l'ancien, la référence défensive des Wolves. Deux Français capables de faire changer carrément une attaque entière sur le plan de jeu et surtout d'avoir un rôle crucial dans cette série. Alors, Victor face à Rudy, Félix, qui peut embêter le plus l'autre?
Clairement, sur les deux, la match-up est vraiment pas favorable à Rudy Gobert. On est tous impressionnés par ce qu'il a fait sur Jokic, mais Jokic était vraiment un profil qui lui correspond beaucoup plus. Jokic qui est lourd, qui est moins mobile, donc Rudy Gobert l'a beaucoup embêté en étant très dur sur lui, et d'ailleurs c'est ce qu'avait dit après Jokic, il avait dit mais qu'est-ce qu'il est, il est super anguleux, il est super costaud, super musclé, il m'embête beaucoup, ce qui me rentre dans l'art, et en plus Jokic a dit même il est capable d'aller jouer aussi avec les règles, avec les arbitres, de voir les limites, donc il a flirté avec ces limites là dans le côté de je rentre dedans, sauf que Victor Wembanyama n'est pas du tout le même joueur que Nikola Jokic en termes de mobilité, de dextérité, de même il va tellement plus vite au large, il est tellement tellement plus dur à suivre que Rudy Gobert, ça lui correspond beaucoup moins ce genre
de point clé. C'est peut-être là où Rudy a une carte à jouer, c'est de pouvoir avec son envergure priver Victor de ballon. Alors forcément, si l'autre Victor il arrive, il fait, il remonte la balle et il arrive lancé, ça va être un peu compliqué, notamment sur de la transition. Moi, là où j'attends peut-être Rudy, c'est de pouvoir, avec son envergure, empêcher que les ballons arrivent à Victor, essayer de lui passer devant. Bah, alors, faut faire attention, parce que si tu essayes de lui passer devant et qu'il te file dans le dos, tu peux te faire sanctionner. Mais c'est vrai que la mobilité de Victor fait que pour Rudy, ça va être un peu compliqué. Sans jouer qu'une fois cette saison, parce que Rudy avait manqué un match.
Et Wemby avait manqué un autre.
On, va revenir sur le détail d'ailleurs de ces rencontres. Juste avant, je vous propose d'écouter justement Rudy Gobert après avoir éliminé les Denver Nuggets sur ce prochain affrontement.
C'est un grand défi. C'est une autre très très bonne équipe avec un joueur unique, un candidat au top 3 pour le MVP aussi. Donc c'est un défi immense et nous sommes excités. C'est exactement ce que j'avais dit à propos de Jokic d'ailleurs, qu'en tant que compétiteur, c'est pour cela que vous vivez. C'est la même chose avec Victor et c'est la même chose avec les Spurs. Ils ont eu une saison régulière incroyable. Ils ont gagné plus de 60 matchs et c'est vraiment difficile à faire sur une saison. Ils ont une très bonne unité collective des deux côtés du terrain et ils sont très bien coachés. Donc ça va être un grand défi et nous avons hâte d'y être.
Alors, en carrière, 8 matchs l'un contre l'autre en NBA, à chaque fois en saison régulière. 6 victoires pour Minnesota, 2 pour les Spurs. Et cette saison, ils se sont affrontés les équipes donc à 3 reprises. Sauf que Rudy face à Victor, ça n'a été que dans un seul match, puisque le 1er décembre, Minnesota a battu San Antonio 125-112. Rudy a joué, mais Wemby était blessé. Le 12 janvier, ils se sont affrontés. Rudy sort avec 2 points, 14 rebonds en 29 minutes. Wemby, 29 points, 7 rebonds en 27 minutes. Plus-minus de Rudy, moins 14. Plus-minus de Wemby, plus 17. Mais victoire de Minnesota, 104-103. Ils sont affrontés une dernière fois.
Rudy avait mis 2 points, je crois, à ce match-là. Hein.
Et 2 points, 14 rebonds, exactement. Et 18 janvier, San Antonio bat Minnesota, 126-123. Sauf que Rudy est en DNP sur ce match-là. Wemby, 39 points. Donc quand Rudy n'est pas là, 39 points, 9 rebonds en 31 minutes et victoire serrée. Là aussi, ce sont des matchs très serrés hein, quand on voit sur la répartition des matchs entre Minnesota et San Antonio. Les 39 points de Wemby, c'était d'ailleurs sa 6e plus grosse marque de la saison à égalité avec une autre perf à 39 points.
Et même s'ils ne sont pas français, tu as deux fois un énorme Anthony Edwards hein, sur ces deux matchs. Et quand on sait qu'il n'est pas là...
Alors on va souligner, il n'y a ni Anthony Edwards, ni Dante DiVincenzo. Et très incertain, Dosunmu également, qui est très important pour Minnesota. Mais Minnesota arrive à nous surprendre. Et ce n'est pas que cette saison. Sur toutes les campagnes de play-off précédentes, à chaque fois, on aime bien dire ouais, ils vont se faire sortir. Et au final, ils se retrouvent en finale de conf.
Oui, bah, je sais pas, apparemment ça va prendre 4-0 là.
4-0, ah non, pour moi il n'y a pas photo, allez à la rigueur 4-1, mais clairement quand je vois...
McDaniels ne va pas être d'accord avec toi.
Non, il ne va pas être d'accord, et peut-être que Chris Finch qui a dit dans sa fameuse vidéo, il a dit une vidéo, regardez, ils nous ont choisi en parlant des Nuggets, parce que sur le seed 2 et 3, non, parce que je ne vois pas... face à ces Wolves décimés. Et c'est pas, je ne m'attends pas forcément à un Victor stratosphérique sur ce match-up. J'attends un Victor très propre. Mais c'est sur les lignes arrières que les Spurs vont faire la différence. Parce que là, sans Edwards, même défensivement, ils vont se faire manger. Alors, je pense que Victor, il va nous mettre ses 20 points de moyenne par match sur cette série. Il n'y a pas photo. Mais je trouve ça tellement déséquilibré dans les dynamiques où ils arrivent à passer face à un Denver qui s'est délité totalement. Là, tu es face aux Spurs. Et pour moi, les Spurs, ils doivent envoyer un message très fort parce que OKC va peut-être faire aussi une boucherie de l'autre côté. Il faut s'économiser des matchs. Et je pense à un rouleau compresseur Spurs. Déjà, ça va faire 2-0. Je ne vois pas les Spurs perdre chez eux. Allez, peut-être que Minnesota, on peut en prendre un. Mais j'ai l'impression que les Spurs veulent faire aussi un statement.
Avant le prono de Félix, juste rappeler quand même que sur le match où Minnesota élimine Denver, Rudy Gobert sort une ligne de stats assez incroyable puisqu'il se rapproche du triple-double. 10 points, 13 rebonds, 8 passes décisives. Et ça, Félix, j'ai envie de te demander, si un Rudy est plus passeur face aux Spurs et face à Victor, est-ce que ça peut avoir une petite influence sur cette série ?
Je ne sais pas si ça va suffire, mais c'est intéressant de le noter parce qu'on a beaucoup parlé de la défense de Rudy sur le premier tour contre Denver. Mais moi, en regardant les matchs, j'avais l'impression que Rudy, il était galvanisé par ce qu'il faisait en défense et que ça le, lui permettait de rentrer dans la zone complète en attaque. Il se découvrait des talents en attaque. Et bah, tu l'as vu sur son côté, tu l'as dit, son côté passeur. Je l'ai même vu faire pendant cette série des fois des petits moves dans le panier, de faire des sky hook à la Karim Abdul-Jabbar.
Au-dessus de Jokic, ouais.
Je pense que physiquement, on l'a jamais vu aussi fort.
Et en confiance aussi.
En termes de forme physique.
C'est pour ça que je dis, c'est galvanisé par ce qu'il faisait en défense. C'est tellement en confiance. Grâce au boulot qu'il faisait, qu'il avait des ailes qui lui poussaient en attaque. Mais je ne suis pas sûr que ça va suffire, notamment dans son match-up, dans sa match-up avec, avec Wemby, pour les raisons que j'ai énoncées tout à l'heure. Mais je ne serai jamais aussi catégorique qu'Arnaud. Parce que sur...
San Antonio favori, mais pas facile.
Mais San Antonio, déjà, est favori juste à cause de l'absence d'Anthony Edwards.
Même pas leur deuxième spot à l'ouest ?
Non, même pas, parce qu'on l'a vu que Minnesota, toutes les autres années, ça a toujours été une équipe ultra relou en play-off, qui avait un peu de mal en régulière, mais que dès que ça cliquait en play-off, en termes d'intensité, ils font très mal. Là, on l'a vu avec les Nuggets. Parce que là, t'as l'air très serein, Arnaud, mais il y a 5 jours de ça, les Nuggets, ils étaient sereins aussi. Hein, quand ils ont vu qu'il y avait Anthony Edwards et DiVincenzo qui n'étaient plus là, ils se sont dit « Bon, ok,
Ils étaient en retard sur la série.
Il y a 3-1, on va pouvoir y aller. » Mais déjà,
suffisait que d'en prendre un. Hein.
Oui, déjà pendant le match, Edwards et Dante se blessent. Dante, c'est au bout de 1 minute au tout début du match. Et Anthony Edwards, il gagne le match alors que les deux sont déjà out. Ils ont été le gagner même sans ça.
Je pense qu'ils l'ont gagné, tu vois, sur le moteur, sur l'envie, ouais. Sur continuer. Mais tu vois McDaniels planter 32 points contre les Spurs ?
Non, mais
je le crois capable de tout maintenant.
Oui, voilà. McDaniels. Et surtout, je le vois être capable d'être, tu vois, très très relou.
Terrence Shannon Jr. en starter en demi-finale de conf.
Non, mais déjà, McDaniels, il va pouvoir.
Là, il est fort en starter en match décisif de premier.
Il va pouvoir faire déjà un gros boulot, je pense, McDaniels, sur les attaquants, sur les lignes arrière des Spurs. Ouais, notamment, je le vois bien sur du Fox, sur du Castle pour limiter leur impact. Et si jamais Anthony Edwards revient, on parle de potentiellement un retour vers le quatrième match de cette série. Les retours les plus positifs, optimistes, c'est ça. Si Anthony Edwards revient, il y a plus d'expérience aussi du côté de Minnesota. On
le rappelait, ils ont fait des finales de conf ces dernières saisons, à chaque fois avec cette étiquette dans le dos de « vous allez paumer ».
Exactement. Et on n'a même pas parlé de Julius Randle, qui aussi, quand il faut mettre des pametons, il peut être là. Même si,
Il est là pour prendre les tirs, après les mettre.
Même si sur les dernières saisons, même sur les derniers playoffs, quand il faut être clutch, ce n'est pas non plus... c'est pas non plus sa spécialité, mais cette équipe des Wolves, tu t'en as parlé, la dynamique collective, ils sont sur cette dynamique-là. Et c'est une équipe qui tourne bien, qui se connaît bien, qui a eu très peu de changements par rapport aux équipes qui ont performé, à l'équipe qui a performé l'année dernière. Donc ça va tellement pas être une formalité.
Pour être précis, je dis pas qu'ils sont mauvais, mais là, avec tes absences... tes rotations, les Spurs, tout le monde est en place, t'as les 8, ça déroule, et c'est clairement défini, la hiérarchie. Là, Minnesota, t'as dû changer beaucoup de choses. Alors, Chris Finch, c'est pas un perdreau de l'année non plus, tu vois, le coach de Minnesota. Mais là, à un moment donné, face à ces Spurs-là, qui sont en
t'as
mission...
T'as pas trop de conditions pour toi.
Ouais, tu vois, c'est... Là, pour moi, les Wolves ont donné leur supplément d'âme en allant chercher cette série avec les obstacles et les absences face à Denver, qui... Quand tu compares ces Nuggets-là face à ces Spurs-là, il y a un monde d'écart.
C'est ça, en fait. Oui, c'est sûr. Les Nuggets, qui étaient très inquiétants et qui est une équipe qui ne marche pas du tout, qui s'est délité par rapport à ces Wolves, c'est quand même un scandale pour les Nuggets de ne pas avoir battu cette équipe C des Wolves hier. Il manquait 4 gars importants de la rotation chez les Wolves. Et tu vas réussir à perdre ce match et à te faire éliminer. On pourra peut-être ouvrir plus tard, notamment dans le podcast du mardi, le dossier de Nikola Jokic. Mais c'est vraiment c'est terrible ce qu'ils ont fait collectivement. Les Spurs ont plus de certitude, c'est certain.
Et bon test pour Mitch Johnson.
Oui.
Voilà, qui lui aussi grandit, parce qu'on oublie à chaque fois que c'est un très jeune coach. Ils sont là sur le parquet, les jeunes joueurs, mais c'est un jeune coach aussi qui doit continuer à apprendre.
Et on a vu beaucoup d'images de Popovic qui faisait des petits tours à l'entraînement, oui. Qui allait discuter un petit peu avec Wemby. Tu vois, pour Mitch Johnson, ça a beau être un très jeune coach qui découvre les playoffs, c'est pas mal d'avoir Pop qui te parle un petit peu à l'oreille de temps en temps, qui te donne quelques petits conseils.
Et il n'y aura pas que 2 Français dans cette série, parce que n'oublions pas que Joanne Béringer est bien présent du côté de Minnesota. On en aura même 3 en demi-finale de conférence. J'oublie pas, parce que c'est important de le souligner, en 2024, il n'y avait que 2 joueurs français en play-off, c'était Rudy et Nico Batum. En 2025, il y en avait un petit peu plus. Ils étaient quatre avec Rudy Gobert, Dieng, Batum et Paco Mdadié. Et cette année, on en compte huit. Wemby, Gobert, Berenguer, Mohamed Diawara qui est qualifié en demi-finale de conf avec New York, tout comme Paco Mdadié. Noah Penda, peut-être avec Orlando. Zach Rizaché, peut-être avec Atlanta, c'est mal parti. Et
c'est fini.
Mais oui.
Avec le 70, je sais plus. Oh là là, quelle boucherie.
C'est déjà fait donc pour New York. Et Sidy Cissoko qui a joué au premier tour avec Portland, c'est fini. Et
est-ce qu'on compte Vincent Collet qui est toujours conseiller dans le stade de Cleveland?
On ne compte pas Olivier Sarr puisque les two-way ne peuvent pas jouer en play-off, mais on peut compter Vincent Collet. On peut compter Vincent.
C'est de le voir là derrière le banc.
Allez, on passe.
J'ai même pas parié, moi, Alex.
C'est vrai, vas-y.
Bah oui, parce que je suis quand même rentré dans Arnaud. Donc
t'as dit non à son pari, mais
j'ai
le
dit non à son pari, donc je suis obligé de. Non, allez, un 4-3 Spurs. Parce que je veux, pour le storytelling et pour l'histoire de cette jeune équipe, aller à un match 7 à domicile.
Tu veux un match 7 et ils arrivent carbonisés ensuite contre OKC. Bah bravo.
Moi, je veux du spectacle et du storytelling.
Je veux un affrontement contre OKC. Là, un match 7 contre OKC.
Je veux qu'ils connaissent tout sur cette
finale. La finale de conf, là, un match 7 à OKC.
En parlant de storytelling, celle-ci, elle est pas mal. Celle-ci, elle est pas mal puisqu'un Français a été récompensé d'un prestigieux titre dans cette fin de saison NBA, le Hustle Award 2026. C'est le prix de la combativité, un petit peu, comme on connaît. Il a été décerné à Moussa Diabaté, l'intérieur des Charlotte Hornets, dont l'impact sur les résultats de Charlotte cette saison ont quand même était assez dingue et se mesure bien au-delà des feuilles de stats. Alors, c'est un trophée qui est décerné depuis 2017 aux joueurs dont l'activité, je cite, « change les matchs sans forcément apparaître dans les statistiques traditionnelles », le fameux Hustle Award. Moussa Diabaté succède notamment à Draymond Green ou encore Alex Caruso et Marcus Smart. C'est super, ça, pour récompenser Moussa.
Ah bah quand tu vois justement Arnaud, toi qui étais un peu critique sur ce trophée, quand tu vois les lauréats, c'est quand même plein de garçons qui sont très utiles dans des équipes quand tu veux gagner et qui sont définis comme les pièces maîtresses que tu vas ajouter à des équipes qui gagnent.
Un mec qui donne une patate à Jordan Poole et il a eu ce trophée quoi. C'est... Non mais t'as raison. Pour le coup c'est un bon trophée. Non, je te rejoins.
Oui, mais c'est super de ce que tu lui as parfaitement résumé, c'est d'avoir un trophée comme ça. Alors c'est pas décerné par des médias ou par les journalistes à l'inverse.
Moi je trouve qu'il a beaucoup de valeur. Ce trophée.
Il a vraiment de valeur parce que toute l'année et nous les premiers, on est omnubilés par les feuilles de stats, par les box scores, par même les stats avancées, etc. Mais s'il y a bien un garçon cette saison qui fait pas énormément de stats, mais qui a eu un impact sur son équipe, j'ai regardé la différence de pourcentage de victoire. Avant qu'il rentre dans le 5 majeur de Charlotte.
Oui, c'était Kyle Brenner en début de saison.
Et après, il est rentré de manière définitive dans le 5 majeur aux alentours du mois de décembre, Moussa Diabaté. Avant ce mois de décembre-là, Charlotte était à 31% de victoire. Après son intégration définitive en 5 majeur, 66% de victoire. Il passait de 30% à 66% de victoire. S'il y a bien un garçon qui a changé un peu le visage de cette équipe cette saison, parce qu'on a parlé à juste titre aussi de Connaughton Apple, de Lamelo, de Brandon.
Excusez-moi, mais quand on voit la saison de Rudy dont on vient de parler et celle de Moussa Diabaté avec ce prix, deux garçons qui ont bien fait de faire l'impasse sur l'euro.
Oui.
Oh.
Et qu'on a.
Nous avons Freddy au 32-16.
Et qu'on a surtout très hâte de retrouver justement très vite avec.
Bien sûr.
Avec les Bleus.
Bien rattrapé.
Non, mais là où je suis content pour Moussa Diabaté, ça t'as tout dit, Félix. D'autant plus qu'il faut pas oublier que son coach Charles Lee a mis un peu de temps à lui faire confiance parce qu'au début l'année dernière, je crois, tu avais Plumlee devant, tu draftes Kalkbrenner, tu lui mets un peu aussi devant les pattes et il a tenu bon, Moussa Diabaté, donc franchement top. Et s'il arrive.
C'est le lion dans cette équipe de Charlotte parce que c'est le seul qui ne shoote pas directement quand il a
la
balle dans les
bien,
mains.
Quoi. Il en faut bien.
Parce que tous les autres, c'est, voilà, la balle, il la garde jamais longtemps dans les mains. Alors que lui,
et ce
au
qui
moins,
serait cool, c'est que tu as un.
Et lui, au moins, il prend les rebonds quand ça loupe à côté. Quoi.
Bah,
et il y en a des rebonds.
Il est en 8,8 rebonds de moyenne, de très bons pourcentages. Tu vois, il prend pas. Donc, un petit peu plus de panier si tu arrives à 10-10 de moyenne, pivot double-double dans la ligue.
Pour nos fans de data qui nous écoutent, et c'est vrai qu'on parle beaucoup de stats en NBA, dans le basket en général, mais ces stats-là, on ne les sort jamais quand on fait les podcasts. Moussa Diabaté, il a terminé premier au box-out offensif par minute. Il a terminé quatrième aux écrans menant à un panier, huitième au ballon récupéré en attaque et dans le top 10 au tir contesté à 2 points parmi 124 joueurs éligibles, puisqu'il a devancé pour ce trophée Dyson Daniels, Draymond Green, Cedric Howard ou encore Josh Hart de New York. Ça, c'est quand même. Ça fait plaisir d'entendre ces stats-là qu'on regarde quasiment jamais et de se dire c'est ça qui a permis à Moussa Diabaté de remporter un trophée.
Bah, puis ces stats-là permettent de mettre un petit peu du concret sur ce que nous on voit pendant les matchs. C'est toujours très dur quand tu vois les matchs d'avoir parce que on a
surtout avec l'intensité d'une saison régulière.
On le voit très bien qui change les matchs et qui change le visage de cette équipe. Mais c'est très dur d'expliquer en quoi c'est important. Donc t'as raison, Alex, c'est bien de mettre ces stats-là. On va se les ajouter à la liste des stats qu'on citera l'année prochaine.
On les cite pas tous les jours ces stats-là. C'est pour ça, mais là on peut rendre hommage.
Mais tu vois, notamment moi, les screen assists, les écrans décisifs qui ont mené un panier, moi j'aime beaucoup cette stat, hein, parce que notamment pour les big men, on parlait de Rudy tout à l'heure, parce qu'il y a les écrans, il faut bien les poser, et tu le vois, hein, quand les écrans sont bien posés ou mal posés, je veux dire que des écrans de Rudy Gobert, quand t'as la balle en main, t'es ravi hein, d'avoir des écrans de Rudy Gobert, ça te fait de la place. Hein.
En tout cas,
quand
pour terminer,
défenseur, tu défends sur le porteur, t'es un peu moins content.
Ouais, un peu chier.
Quand on avait encore, si on reprend la conversation il y a un an, on avait des doutes sur si Moussa Diabaté pouvait vraiment s'imposer en NBA. Aujourd'hui, tout est clarifié.
Alors, on en a plus, et surtout dans ce rôle-là, il a trouvé le rôle parfait. Et en plus,
il va avoir une carrière.
Dans une franchise qui est vraiment sur la pente ascendante, qui a fait vraiment une très belle saison jusqu'au play-in, qui était au-delà des attentes. Donc non, tout est parfait. Je vois aucune raison qui ferait que Charlotte a envie de casser cette dynamique-là.
On les attend
et de casser
maintenant.
Son gars qui est hyper important dans le lien collectif. Quoi.
Alors je viens de compter, il y a en NBA 18 trophées individuels. Voilà, c'est tout.
Et lesquels te plaisent
pas là-dedans? Le Clutch Player, je crois que c'est le pire. Hein.
Puis il y avait 19 Français au départ de la saison, donc ils vont tous en
prendre. Alors après, tu comptes MVP Conférence Est, Conférence Ouest, le Social Justice Champion Award, le trophée Karim Abdul-Jabbar qui avait été décerné à Jrue Holiday, un joueur qui milite dans la lutte pour la justice sociale, le Hustle Award, Lifetime Achievement Award, décerné à un joueur qui a donné l'exemple d'un succès extraordinaire sur le terrain et hors du terrain au sein de la NBA. Alors, il y a eu Magic Johnson et Larry Bird, ils l'ont eu, voilà. T'as le Teammate of the Year. Non, mais tu vois, t'as quand même 50 000 trophées. Je dis pas que des cracks, hein. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est un bon trophée pour défendre les soutiers.
Ça sera le mot de la fin. C'est parfait. Merci beaucoup, Arnaud Valadon. Merci, Félix Gabory. Basket Time continue, bien sûr, pendant les playoffs. Vous savez où nous trouver, où nous télécharger, où nous écouter. Bye bye.
RMC Basket Time.